Et les midis, ça repart ou ça continue, je ne sais plus. À 13h, je recevrai les comédiennes Aïssa Maïga et Déborah Lobé-Nané. Mais tout de suite, place au Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Vient de sortir dans la collection Quarto Gallimard un recueil de textes de Curzio Malaparte, voix majeure de la littérature italienne du XXe siècle, qui témoigne de la richesse de ses écrits et de la complexité de son parcours. Malaparte, l'homme et l'œuvre, c'est le dossier du Point Culture du jour. Emmanuel Macchiato, bonjour.
Bonjour, bonjour Marie.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Savoie et vous vous êtes penché sur l'élaboration de ce Quarto Gallimard consacré à Malaparte. Alors peut-être pour commencer et en quelques mots, comment vous pourriez présenter Malaparte ? Qui était-il ?
Alors Malaparte reste un écrivain assez mystérieux qui a été très célèbre en France et qui l'est encore, hein, je dirais, mais surtout jusqu'aux années 1980. Et c'est un écrivain qui a vraiment traversé, je dirais, les moments les plus difficiles du XXe siècle. Hein. Il est né en 1898, il est mort en 1957, et il a combattu jeune, à 16 ans, il s'est porté volontaire pour combattre en France, parce que la France, pour lui, c'était la Révolution française, les droits de l'homme, etc. Et il a combattu ensuite toute la guerre de 1915-1918, la guerre côté italien. Voilà, c'est un vétéran un peu comme Blaise Cendrars. Et ensuite, il s'est engagé, je dirais, dans les grandes aventures idéologiques du XXe siècle, avec le risque aussi de l'engagement politique, que ce soit dans le fascisme ou bien dans le communisme. C'était un républicain avant tout, mais qui a été fasciné, je dirais, par les grandes utopies politiques du siècle dernier.
Alors c'est vrai que Malaparte traîne un peu derrière lui une réputation politique sulfureuse, ou en tout cas non conformiste, on peut le dire comme ça.
Voilà, c'est plutôt un non conformiste, oui. C'est exactement le terme que j'aurais choisi.
Et comment vous avez choisi de mettre en exergue cet aspect-là de sa personnalité dans le Quarto ? Comment on la retrouve ?
Alors cette personnalité, je dirais, on la retrouve surtout dans ce texte qui est un classique, je dirais, des sciences politiques, mais aussi de l'histoire. C'est Technique du coup d'État, en fait, qui est un texte... on pourrait dire c'est un peu le prince du XXe siècle. Hein. Malaparte était toscan, fan de Machiavel. Et dans Technique du coup d'État, il étudie justement la façon dont les nouveaux dictateurs, Mussolini, Hitler ou Staline, Trotsky, Lénine, s'emparent du pouvoir. Et en même temps, je dirais qu'il donne aussi aux démocraties libérales, parlementaires qui sont très ébranlées dans les années 30, la capacité de se défendre. Hein, c'est pour ça que le livre a été lu... sous un double aspect. On peut le lire comme un livre qui exalte les totalitarismes, mais moi je suis convaincu, et ses contemporains l'ont bien compris, que c'est exactement le contraire. Il donnait des clés, si vous voulez, surtout à la France, il résidait alors à Paris, au Parlement, un système parlementaire pour se défendre justement contre les nouveaux catilinaires, les nouveaux tenants du renversement des institutions, on pourrait dire, démocratiques.
Et alors évidemment, j'imagine que quand on lit ce texte aujourd'hui, ça prend une toute autre résonance. Est-ce que vous diriez que Malaparte a des échos avec notre monde contemporain ?
Oui, oui, Malaparte a des échos, évidemment, avec on peut voir ce qui se passe au Venezuela, avec les coups d'État encore qui fleurissent en Asie ou en Afrique. Malaparte reste actuel, et il reste actuel aussi, je dirais, par rapport à la guerre en Ukraine, puisque c'est ce qui l'a rendu le plus célèbre, je dirais, ce sont ses reportages de guerre entre 1940 et 1943. Et Malaparte, là où les Russes et Ukrainiens aujourd'hui combattent dans les tranchées, cette guerre atroce, Malaparte était présent sur ces mêmes lieux et il a documenté de façon très distante. Hein. Il n'y a pas aucun éloge de la violence, je dirais, côté nazi ou russe. Et là, il a documenté vraiment cette férocité dans ce qu'on a appelé les terres de sang, cet espace entre... l'Allemagne et l'Union soviétique, où sont morts des millions de personnes entre les années 30 et 1945.
Alors, on parle de ses essais politiques, mais bien sûr, Malaparte, c'est aussi des romans, des essais, des nouvelles que l'on retrouve dans ce Quarto. Peut-être un mot sur cette œuvre romanesque. Comment vous pourriez la présenter ?
Écoutez, c'est une œuvre romanesque absolument variée. Hein. Comme vous le disiez, il a écrit des nouvelles. Je dirais que les nouvelles, c'est la première période de son œuvre littéraire, entre 1930 et 1940. C'est sa période aussi d'emprisonnement. Les fascistes ne lui font pas de cadeaux. Il va être relégué sur l'île de Lipari. Et les nouvelles, c'est une façon de passer de la réflexion politique à l'engagement littéraire, au style. Il va vraiment travailler son style pendant une dizaine d'années en écrivant des récits courts. Et c'est grâce à ce travail, on pourrait dire un peu souterrain, mais qui le rend célèbre en Italie dans les journaux, qu'il va ensuite pouvoir écrire ses chefs-d'œuvre romanesques que sont Caput, évidemment, et La Peau. Caput 1944, La Peau 1949, hein, deux livres voilà, qui vont provoquer beaucoup d'esclandres, de scandales, et qui vont valoir à son auteur cette réputation sulfureuse qu'il avait déjà, mais bon, ça va la renforcer, en quelque sorte.
Alors, vous avez choisi d'intituler ce quarto « Exil » au pluriel. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que ça dit de la lecture des textes ?
Et écoutez, oui, « Exil », parce que on pourrait dire que Malaparte, très jeune, choisit la route, alors non pas de l'exil politique, mais en tout cas de la fuite. Hein. En Italie, en 1914, l'Italie est neutre, ne s'engage pas dans la guerre. Malaparte veut aller en France pour défendre voilà, symboliquement ce que représente la France révolutionnaire. Et très vite aussi, il va devenir un exil intérieur dans la mesure où le fascisme très rapidement le déçoit. Il s'exile, entre guillemets, à Paris à la fin des années 20. Et il y écrit justement « Technique du coup d'État ». Il y fréquente beaucoup d'intellectuels de l'époque, hein, Cocteau, tous les écrivains de autour de Grasset, etc., de l'éditeur. Et puis le véritable exil politique commence, comme je le disais, avec son exil à Lipari pour des raisons politiques. Il est condamné par le fascisme pour avoir diffamé un ancien chef fasciste, hein, Italo Balbo. Mais cela dit, alors on a dit que c'était surtout une vengeance personnelle de Balbo, mais en réalité, il faut savoir quand même que Malaparte, à Paris, était surveillé hein, par la police fasciste, parce qu'évidemment, il fréquentait, comme je le disais, beaucoup d'intellectuels de gauche, mais je dirais surtout proche du parti radical, hein, en tout cas, voilà, qui étant républicain, cette frange, on pourrait dire, libérale, lui parlait plus que le fascisme ou le communisme, paradoxalement, alors que souvent on le présente encore comme un auteur, justement, plus des extrêmes.
Vous intégrez également des archives hein, dans ce volume. Qu'est-ce que ça change, ces documents, pour le lecteur ? Vous voulez éclairer quoi, l'homme, avec ces archives-là ?
Moi, je veux vraiment, voilà, je pense que dans le cas de Malaparte, qui est un écrivain qui a mis en scène toute sa vie, l'image est importante. Donc, si vous voulez, c'est un intellectuel assez, qui avait une belle prestance, qui s'exprimait aussi avec beaucoup d'élégance. Et donc, les photos, c'est une façon aussi d'incarner, si vous voulez, Malaparte. D'autant plus que Malaparte, dans ses romans, dans ses nouvelles, dans tous ses écrits, pratiquement, se met en scène. Et cette mise en scène, je dirais que la force du quarto de cette collection, c'est d'offrir justement au lecteur beaucoup de documents, non seulement des lettres, mais aussi des photographies qui permettent de donner une épaisseur, une profondeur à un écrivain qui, justement, est souvent, en raison de ses engagements politiques, caricaturé. Donc on a voulu un peu lever le masque, hein, offrir un Malaparte plus humain, aussi le montrer à travers des extraits de lettres inédites, voilà, montrer aussi sa fragilité, sa détresse. Et c'était vraiment l'enjeu de cette iconographie très, très variée, hein, lettres, photos, documents rares, etc.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Mattiato. C'est une bonne raison, hein, cette publication de ce quarto chez Gallimard, de lire ou de découvrir Malaparte. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Au revoir.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une nouvelle présidente a enfin été nommée à la Villette.
Oui, et c'est Claire Landais qui vient d'être désignée pour remplacer la chorégraphe Blanca Ali au poste de présidente de l'établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, gigantesque centre culturel dans le 19e arrondissement à Paris. Ancienne élève de l'ENA, conseillère d'État depuis 2015, Claire Landais tranche donc avec les profils plus artistiques des présidents précédents.
Et direction Los Angeles à présent pour la liste des films nommés pour les Oscars qui a été dévoilée hier.
Avec un record historique pour le film Sinners du réalisateur américain Ryan Coogler qui cumule 16 nominations, une première dans l'histoire des Oscars. Ce long métrage horrifique et politique qui raconte l'histoire de deux frères ouvrant une salle de concert au Mississippi dans les années 30 a attiré déjà plus d'un million de spectateurs en France. De son côté, le film Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, l'autre grand favori, a été nommé dans 13 catégories. Cette 98e cérémonie des Oscars se déroulera le 15 mars prochain à Los Angeles.
Et pour finir, Marie, le trésor de Lavaux sera enfin dévoilé au public à partir de samedi à 3.
C'est en 2014 que l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, a découvert sur le chantier d'une future zone commerciale à Lavaux une tombe datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'intérieur de la chambre funéraire, ils ont mis à jour le squelette d'un prince celte entouré de 80 objets, parmi lesquels des bracelets en or, un char à deux roues, de la vaisselle ou encore un chaudron en bronze. La qualité artisanale des objets objets exhumés ainsi que leur diversité et leur taille en font l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces 50 dernières années en France. Et après plus de 10 années de restauration et de recherche, ils seront donc montrés au public à partir de samedi au Musée d'Art Moderne de Troyes, et ce jusqu'au 21 juin prochain.
Merci Marie, on se retrouve le lundi.
Mais lundi, bon week-end.
Merci, bon week-end pour de nouvelles actualités culturelles. Allez, en attendant, il est 13h, vous écoutez France Culture.